Nous avons traversé Helm en diagonale, moi béquillant presque au pas de course. La plus grande partie de la foule était massée dans Main Street, mais des gens commençaient à emplir Dealey Plaza et à s'aligner dans Helm devant le School Book Depository. Ils se pressaient le long des trottoirs jusqu'au triple viaduc. Des jeunes filles étaient penchées sur les épaules de leurs fiancés. Des enfants, qui bientôt hurleraient de panique, se barbouillaient joyeusement le visage de crème glacée. J'ai croisé un homme vendant des snow cones et une femme aux cheveux bouffants vendant à la sauvette des photos de Jack et Jackie en tenue de soirée. Le temps que nous arrivions dans l'ombre du TSBD, je transpirais. J'avais l'aisselle meurtrie par la pression constante du croissant de la béquille et mon genou gauche était sanglé dans une ceinture de feu. C'est à peine si je pouvais le plier. J'ai levé les yeux et vu des employés du TSBD se pencher à certaines des fenêtres. Je n'ai vu personne à celle de l'angle sud-est du cinquième étage, mais Lee devait y être. J'ai consulté ma montre. 12h20. Nous pouvions suivre la progression du cortège au grondement qui s'amplifiait dans la partie inférieure de Main Street. Sadie a essayé d'ouvrir la porte, puis s'est tournée vers moi, de l'angoisse dans le regard. « Verrouillé !» À l'intérieur, j'ai aperçu un grand gaillard noir, une casquette de poulbeau négligemment inclinée sur le crâne qui fumait une cigarette. Al avait été doué pour les notes marginales dans son carnet. Et vers la fin, comme écrite en passant, quasi griffonnée, il avait indiqué le nom de plusieurs des collègues de Lee. Je n'avais fait aucun effort pour les mémoriser, car je ne voyais vraiment pas à quoi ils pourraient me servir. À côté d'un de ces noms, celui du gars à casquette de poulbeau, je n'avais plus aucun doute là-dessus, Al avait écrit « Premier qu'ils ont soupçonné. Because noir, sans doute. » C'était un nom inhabituel. Mais j'étais incapable de me le rappeler, soit parce que Roth et ses hommes l'en avaient extirpé à coups de tuyaux de plomb, de même que toutes sortes d'autres choses, soit tout bêtement parce que je n'y avais pas prêté assez attention. Ou tout simplement parce que le passé est tenace. Et puis après, quelle importance ? Ce nom me revenait pas à point barre. Ce nom s'était envolé. Sadie a tambouriné à la porte. Le grand noir à casquette de poulbeau la regardait, imperturbable. Il a tiré une bouffée de sa clope, puis du revers de la main lui a fait signe de dégager. « Passez votre chemin, madame, circulez !»«
Jake, trouve quelque chose, s'il te plaît !»
12h21. Un nom inhabituel, oui, mais pourquoi l'était-il ? J'ai eu la surprise de découvrir que je le savais. « Parce que c'est un nom de fille !» j'ai dit. Sadie m'a regardé interloqué. Ses joues étaient rouges, à l'exception de sa cicatrice qui se détachait comme un rictus blanc.
« Quoi ?»
Soudain, je tambourinais à mon tour sur la vitre.
« Bonnie !»
me suis-je écrié.
« Hey, Bonnie Ray ! Laisse-nous entrer ! On connaît Lee ! Lee ! Lee Oswald !»
Il a capté le nom et traversé le hall d'un pas lent et exaspérant.
« Je savais pas que ce petit avorton avait des amis !»
observa Bonnie Ray Williams en ouvrant la porte. Et il s'écarta d'un pas lorsque nous nous engouffrâmes à l'intérieur.
« Il doit être dans la salle de repos, en train de guetter le président avec les autres.
« Écoutez-moi !» j'ai dit. « Je suis pas son ami et il est pas dans la salle de repos. Il est au cinquième étage et je crois qu'il va flinguer le président Kennedy !»
Le grand gaillard a ri joyeusement. Il a laissé tomber sa clope par terre et l'a écrasée du talon de sa botte de chantier.
« Bah, ce petit merdeux n'aurait pas le courage de noyer une portée de chaton dans un sac. Tout ce qu'il sait faire, c'est rester assis dans un coin à lire des bouquins.
Je te dis !»«
Moi, je monte au deuxième. Si vous voulez venir avec moi, libre à vous. Mais me racontez plus de salade sur Lila. C'est comme ça qu'on l'appelle, Lila. Flinguer le président. » Oh, quelle blague!
Il a agité la main et s'est éloigné de sa démarche lente et exaspérante. J'ai pensé,
ta place est à Derry, Bonnie Ray. Ils sont spécialistes du refus de voir ce qu'ils ont devant les yeux.
Les escaliers.
j'ai dit à Célie. L'ascenseur serait la fin de l'ultime chance que nous avions peut-être encore. Hein, il resterait coincé entre deux étages. Les escaliers ! J'ai pris sa main et l'ai entraîné vers la cage d'escalier. C'était un goulet étroit abritant des marches de bois creusées par des années d'usage, avec sur la gauche une rampe en fer rouillé. Avant d'entamer la montée, Sadie s'est tournée vers moi.
« Donne-moi le flingue !»«
Non !
T'y arriveras jamais à temps ! Moi, oui ! Donne-moi le flingue !»
J'ai failli céder. C'est pas que j'estimais mériter de le garder. Non. Maintenant que nous étions parvenus sur la ligne de partage des eaux, peu importait de savoir qui empêcherait Oswald de tirer, pourvu que quelqu'un le fasse. Mais nous n'étions qu'à un pas des rouages de la grosse machine grondante du passé, et plutôt mourir que de laisser Sadie franchir ce dernier pas avant moi, au risque d'être aspiré dans le tourbillon de ses lames et de ses courroies. J'ai souri, puis je me suis penché en avant pour l'embrasser.
« On fait la course. Prums là-haut !»
Et j'ai commencé à gravir les escaliers. Et par-dessus mon épaule, je lui ai lancé
« Si je m'endors, il sera tout à toi !»«
Vous êtes fada, les amis !»
J'ai entendu Bonnie Ray Williams proférer d'un ton de léger reproche. Puis j'ai perçu le bruit des pas de Sadie qui me suivait. Je béquillais à droite maintenant. La béquille avait cessé de me servir d'appui pour faire office de perche avec laquelle je bondissais quasiment par-dessus les marches, en me halant à gauche avec la rampe. Dans la poche de mon veston, le revolver se balançait et battait contre ma hanche. Mon genou mugissait, je l'ai laissé brailler. Arrivé sur le palier du premier étage, j'ai jeté un rapide coup d'œil à ma montre. Il était 12h25. Non, 26. Je percevais, comme une vague sur le point de se briser, le grondement de la foule qui continuait à converger. Le cortège avait dépassé les intersections de Main et Irvay, Main et Eckard, Main et Field. Dans 2 minutes, 3 au plus, il atteindrait Houston Street, tournerait à droite et passerait à moins de 20 km à l'heure devant l'ancien palais de justice de Dallas. À partir de là, le président des États-Unis ferait une cible parfaite. Dans la lunette 4 fois grossissante du Manlicher Carcano, les Kennedy et les Connolly seraient aussi grands que des acteurs en gros plan sur l'écran du cinéparc de Lisbonne. Mais Lee attendrait un peu plus longtemps. Il n'avait rien d'un drone suicidaire. Il voulait s'en sortir. S'il tirait trop tôt, le détachement de sécurité placé dans la voiture de tête apercevrait l'éclat du tir et riposterait en ouvrant le feu. Non, il attendrait que cette voiture de tête et la limousine présidentielle aient franchi le coude, faisant obliquer Helm sur la gauche. Pas juste un tireur embusqué, non. Un putain de tireur dans le dos. Il me restait 3 minutes. Ou peut-être juste 2 et demi. Ignorant la douleur dans mon genou, me propulsant de force vers le haut tel un marathonien à la fin d'une longue course, ce que bien sûr j'étais, j'ai attaqué l'escalier entre le premier et le deuxième étage. D'en bas m'est parvenue la voix de Bonnie hurlant quelque chose qui contenait les mots « Fou !» et
« Dire que Lila va tirer dessus !»
Jusqu'à la moitié des marches du deuxième étage, je sentais Sadie me talonner, tel un cavalier pressant son cheval d'accélérer, puis elle a commencé à perdre du terrain. Je l'ai entendu halter et j'ai pensé « Trop de cigarettes, pépette ?» Mon genou ne me faisait plus mal. La douleur temporairement engloutie sous une décharge d'adrénaline. Je gardais ma jambe gauche la plus raide possible, laissant le soin à la béquille de faire le travail. Virage sur le palier. En route vers le troisième étage. Maintenant, je haletais moi aussi et les escaliers paraissaient plus escarpés, comme le flanc d'une montagne. Le croissant de la béquille du mendiant était gluant de sueur. Ça cognait dans ma tête. Dans mes oreilles résonnait le bruit de la foule en liesse en contrebas. L'œil de mon imagination s'est allumé et j'ai visualisé le cortège qui approchait. La voiture de sécurité, Puis la limousine présidentielle, flanquée des motards en Harley-Davidson de la police de Dallas, portant casque blanc avec jugulaire au menton et lunettes de soleil. Nouveau palier. Nouveau virage. La béquille dérape, puis se stabilise. Je pars à l'assaut d'un nouvel étage. Cognement sourd de la béquille. À présent, je flaire le parfum suave de sueur de bois des rénovations du cinquième étage. Les ouvriers qui remplacent les vieilles lames de parquet par des neuves. Pas du côté de Lee, cependant. Lee avait le côté sud-est, pour lui tout seul. J'atteins le dernier palier et amorce le dernier virage, bouche ouverte pour engouffrer l'air. Ma chemise n'est plus qu'un chiffon trempé collé à ma poitrine haletante. De la sueur piquante me dégouline dans les yeux et je cligne frénétiquement pour m'en débarrasser. Trois cartons de livres imprimés, « Chemin vers le monde » et « Lecture quatrième et cinquième année » bloquent l'escalier du cinquième. Debout sur ma jambe droite, je balance un coup avec le pied de ma béquille dans le premier que j'envoie balader. Derrière moi, j'entends Sadie, maintenant entre le troisième et le quatrième palier. J'ai eu raison de garder le revolver apparemment, mais comment le savoir vraiment ? Si j'en juge par ma propre expérience, savoir que t'es celui à qui incombe la responsabilité de modifier le futur te fait courir plus vite. Je me glisse dans l'espace que j'ai créé. Pour y arriver, je dois transférer tout le poids de mon corps sur ma jambe gauche pendant une seconde. Ma jambe hurle de douleur. Moi, je gémis et j'agrippe la rampe pour éviter de dégringoler tête la première dans l'escalier. Je consulte ma montre. 12h28. Mais si elle retarde ? En bas, la foule rugit.
Jake ! Je t'en prie, dépêche !
Sadie, toujours dans l'escalier, pas encore au quatrième palier. J'attaque la dernière volée de marche et le bruit de la foule commence à se diluer dans un grand silence. Le temps que j'atteigne le dernier palier, il n'y a plus aucun bruit, que le râle de mon souffle et les coups de marteau brûlants de mon cœur exténué.